France Musique.
L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Le retour du masque dans les écoles primaires. Ce matin, 39 départements sont à nouveau concernés par cette obligation parce que les cas de contamination au Covid-19 repartent à la hausse dans ces territoires. Au total, cette mesure touche 57 départements métropolitains et 4 territoires d'outre-mer. Le chef de l'État doit prendre la parole demain soir pour évoquer la crise sanitaire et un rebond donc qui se confirme à la faveur d'une baisse des températures, d'un relâchement des gestes barrières un peu partout dans le pays et d'une vaccination qui stagne. Sur le terrain, les professionnels de santé alertent, il va falloir augmenter rapidement les capacités de vaccination. Certains préconisent d'ailleurs désormais, comme en Israël et bientôt en Allemagne, une troisième dose pour tous. L'hypothèse sera sur la table d'un nouveau conseil de défense demain matin à l'Élysée. Après 20 mois de restrictions, les États-Unis rouvrent aujourd'hui leurs frontières terrestres et aériennes pour fouler le sol américain. Les autorités exige une vaccination en bonne et due forme et un test PCR négatif réalisé 3 jours avant de franchir les postes de douane. C'est un hashtag qui provoque en ce moment une onde de choc en Belgique. Balance ton bar, agite les réseaux sociaux et dénonce les violences sexuelles dans le monde de la nuit. Des dizaines de jeunes femmes racontent avoir été droguées et agressées à leur insu dans des cafés et des discothèques de la capitale belge. Des témoignages édifiants qui forcent les patrons des établissements et le gouvernement à réagir. À Bruxelles, c'est un reportage d'Angélique Boin.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère.
Elles ont fait entendre leur voix en manifestant, mais c'est sur la page Instagram Balance ton bar que des dizaines de jeunes femmes racontent. Je fêtais mes 18 ans, la boîte fermait, le videur m'a plaqué au mur. Je n'avais bu qu'une bière, on m'a retrouvée inconsciente dans les toilettes, tandis qu'une autre dit s'être réveillée nue dans le lit d'un inconnu. Des témoignages glaçants relayés par les médias belges.
Tout d'un coup, en fait, je ne sais plus exactement comment, mais j'étais par terre, dans les toilettes du El Café.
Bar et discothèque de la capitale sont nommément cités, leur patron vilipendé. L'impunité dans le monde de la nuit doit cesser, estime Maïté Meus, 23 ans, à l'origine de ce hashtag.
Les établissements se dédouanent souvent en disant « voilà, mais c'est pas ma faute, embrasse tellement de clients ». Oui, mais est-ce que vous mettez aussi énormément de choses en place pour protéger vos clientes? C'est ça la vraie question.
Des élus locaux se sont engagés à réunir les patrons de bars et de boîtes pour mettre au point un plan d'action. Une discothèque mise en cause a déjà annoncé une formation spécifique pour son personnel et va déployer une équipe dédiée pour éviter ces agressions. Le gouvernement fédéral s'est de son côté engagé à accélérer la prise en charge des plaintes.
Et en France, des témoignages identiques se multiplient depuis le mois de septembre avec des agressions du même genre à Montpellier, Besançon, Grenoble, Tours et Paris notamment. À l'origine des récentes révélations sur Facebook, la lanceuse d'alerte française Hogan est auditionnée aujourd'hui par les députés européens. Elle sera ensuite entendue mercredi à Paris par les parlementaires français. Elle accuse notamment son ancien employeur d'encourager la diffusion de contenus particulièrement clivants, documents à l'appui. Elle affirme que Facebook privilégie le profit à la sécurité. À 7h50 sur France Musique, Antoine Péqueur reviendra lui dans sa chronique, entre autres du lundi, sur le parcours d'une autre femme qui dirige désormais la SACEM, l'une des plus importantes société de droit d'auteur de notre pays. Et puis avant cela, à 7h40, votre revue de presse, Jean-Baptiste Urbain, l'occasion d'évoquer le roman noir de la Philharmonie de Paris. C'est le titre ce matin d'un grand article publié par nos confrères du Figaro.
Le roman de l'info continue, nouvelle page, nouveau chapitre à 8h. Mais tout est vrai, à tout à l'heure, 8h.
À tout à l'heure.
Thank you.
Mozart, le final presto de son premier concerto pour violon, et c'était Julia Fischer, l'orchestre de chambre néerlandais dirigé par Jakob Greisberg. Julia, ou Julia Fischer, si vous préférez, la grande violoniste allemande qui est de passage à Lyon aujourd'hui. Un récital de cette passionnante musicienne qui a aussi été pianiste concertiste d'ailleurs. C'est ce soir, là c'est la pianiste russe Yuliana Avdeyeva qui joue avec elle. Mozart sera au programme, mais aussi Brahms, Ravel ou encore Enesco. France Musique, il est 7h40, c'est l'heure de faire le tour de l'actualité musicale.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et d'abord dans la presse ce matin, Le Figaro revient sur deux longues pages sur la saga de la Philharmonie de Paris. Comment en 30 ans l'institution au destin tourmenté est-elle née? Dernier né des grands projets culturels devenus un outil nécessaire à la vie musicale. Dans le journal, Ariane Bavelier a longuement interrogé l'ancien directeur de la Philharmonie, Laurent Bell, qui a quitté ses fonctions il y a une semaine. Laurent Bell qui se souvient qu'à l'origine du projet, il y a l'Opéra Bastille, projet dans lequel Pierre Boulez se retrouve embarqué malgré lui quand il a vu que ses vœux pour Bastille ne se feraient pas, au lieu d'entrer dans une de ces colères qui lui avait fait quitter la France, se souvient Laurent Bell. Il a curieusement préféré le pragmatisme et jeté toutes ses forces dans la Cité de la Musique et à la Villette. Donc, le roman de la naissance de la Philharmonie s'est ensuite fait de multiples rebondissements sur lesquels revient le Figaro. Laurent Bell lance quelques piques visant notamment l'ancien chef de l'État François Hollande, un homme cultivé, mais en matière programme culturel, dit Laurent Bell, c'est zéro. Tout cela jusqu'à la cérémonie d'adieu le mois dernier, le 21 octobre, où le patron partant de la Philharmonie se réconcilie avec l'architecte Jean Nouvel. Celui-ci, Laurent Bell, reconnaissant sa part de responsabilité. Dans l'actualité également, le chanteur Vasselot remporte le 11e prix Moustaki de la jeune chanson française indépendante ou autoproduite. Son premier album, À travers les regards, porte l'influence des musiques d'Europe de l'Est, du klezmer et du fado. Et c'est un portrait à lire dans le quotidien La Croix qui lui consacre donc un article sur son site. Et puis, dans le monde de l'opéra, une disparition, celle de Joan Carlyle. Elle avait 90 ans. Sur son site internet, Norman Lebrecht de BBC Radio 3 annonce l'information. Il rappelle qu'elle avait été l'une des stars de la compagnie d'opéra de Covent Garden dans les années 1950-1960, sous la direction notamment de Raphaël Kubelik ou encore Rudolf Kempe. Joan Carlyle avait chanté avec Callas dans Médée, avec John Vickers dans Othello. Je vous propose de l'écouter en 1966, c'est à la Scala de Milan. C'est un air de Payas de Leon Cavallo et c'est Carian à la baguette. De Nola sous un air de Neda à l'acte 1 de Payas de Ruggiero Leone Cavallo. C'était en 1966, l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan dirigé par Herbert von Karajan et la voix de Joan Carlyle, cette chanteuse anglaise qui vient de s'éteindre à l'âge de 90 ans. Vous écoutez France Musique, il est tout juste 8h moins le quart. Thank you. La musique écrite par Alexandre Desplat pour Regarde les hommes tombés. C'était le premier long métrage de Jacques Audiard. Il est sorti en 1994 avec Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz, si mes souvenirs sont bons. Alors que sort son nouveau film, Les Olympiades, sorti mercredi dernier sur les écrans. Musique cette fois écrite par Ron. Ici, c'était le Trafic Quintet, l'ensemble créé par Sol Ray et qui propose une nouvelle version de son spectacle Divine Féminin. C'est demain midi à Paris, au Musée d'Orsay. Un spectacle son et images autour de certaines grandes figures féminines du cinéma, d'Alfred Hitchcock à François Truffaut. Il est 7h48. Comme tous les lundis sur France Musique, on a rendez-vous avec Antoine Péqueur de La Lettre du Musicien. Bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin dans votre chronique, vous vous intéressez aux sociétés de droits d'auteur et à leur mutation. L'une des plus importantes, la SACEM, celle qui gère les droits des compositeurs, a une nouvelle gouvernance depuis quelques jours.
Écoutez, Jean-Baptiste, c'est la première fois de son histoire que la SACEM est désormais dirigée par une femme. Alors cela aura pris du temps, puisque la société a quand même été fondée en 1851. Cécile Rapp-Weber, c'est son nom. Elle devient donc directrice générale gérante. La SACEM ne lui est pas inconnue, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'elle y occupait jusqu'alors les fonctions de directrice du développement. C'est elle qui a signé les accords internationaux avec les GAFAM, hein, les célèbres géants technologiques. Ce qu'il faut souligner, c'est que son arrivée signifie un vrai changement de cap pour la société. Et il y a urgence car la SACEM va mal. Le Covid a entraîné une baisse des collectes, des répartitions de droits. Il y a même eu un plan de départ volontaire en interne. Le président directeur, Jean-Noël Tron, avait un réseau politique indéniable, mais aux yeux de certains collaborateurs, manquait d'expertise d'un point de vue technique en matière de gestion des données. Le conseil d'administration a donc souhaité tourner la page, ce qui ne s'est pas fait sans heurts, vous l'imaginez. Cécile Rapp-Weber va elle donc désormais mettre l'accent sur la modernisation des outils informatiques, la technologie, les data. Ce sont ses mantras pour que la collecte des droits d'auteur puisse faire face au mieux à l'essor du streaming.
La SACEM, c'est donc pour les droits des compositeurs, mais pour les droits des interprètes, ce sont d'autres sociétés qui les gèrent. L'ADAMI pour les solistes et la Spedidam pour les musiciens d'ensemble, d'orchestre. Et là aussi, ça bouge.
Ça tangue même, Jean-Baptiste. La Spedidam est empêtrée dans une véritable bataille judiciaire entre deux camps en interne. Alors, il faudrait 4 heures d'émission au moins. Jean-Baptiste, je suis pas sûr que vous pouvez me les donner pour tenter d'expliquer ce conflit où les accusations portent sur des élections au conseil d'administration que certains considèrent comme truquées, des conflits d'intérêts aussi. Alors, s'il y a un climat aussi violent au sein de cette société, c'est que les montants en jeu ne sont pas anecdotiques. Je rappelle, par exemple, qu'en 2019, la société a récolté près de 56 millions d'euros, quand même. L'heure est donc plus que jamais à la transparence. Vieux serpent de mer, la fusion entre la Spedidam et la DAMI pour créer donc une seule société de droits des interprètes pourrait permettre une meilleure cohérence et une mutualisation intelligente des moyens. L'État va en tout cas suivre tout cela de près. Un rapport doit d'ailleurs être rendu avant la fin de l'année sur le fonctionnement de la commission copie privée. La copie privée, c'est la rémunération perçue justement par ces sociétés de gestion de droits sur les appareils qui permettent de copier la musique, comme les smartphones. Je rappelle que le 10 juin dernier, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement étendant cette rémunération pour copie privée aux smartphones reconditionnés, ce qui avait alors créé de vives controverses. Des députés avaient même affirmé avoir fait l'objet de menaces avant le vote de la part du lobby des ayants droit. Alors vous l'aurez compris, ces sociétés, aussi nécessaires soient-elles, doivent aujourd'hui faire l'objet de réformes profondes.
La chronique d'Antoine Péqueur tous les lundis à 7h50 en partenariat avec La Lettre du Musicien. La semaine prochaine, Antoine.
Bonne journée. Thank you.
Scarlatti, Domenico Scarlatti, avec cette sonate Kirkpatrick 529 dans l'interprétation d'Ivo Pogorelic, le génial pianiste croate, qui est de passage cette semaine en France. Il sera ce soir à Paris, salle Gaveau, pour un récital Chopin, un programme qu'il donnera à nouveau mercredi à Bordeaux, à l'Opéra, dans le cadre du festival L'Esprit du Piano. C'est un festival qui démarre aujourd'hui. France Musique, 7h54, c'est l'heure de jouer, c'est l'heure de la voix mystère.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
A gagné aujourd'hui le disque Talisman de Carole Beffa, le compositeur et pianiste, paru sous le label Clart il y a un an tout juste. Pour gagner ce disque, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Contactez-nous. Bah, vous cliquez dessus, vous donnez votre réponse et vos coordonnées pour recevoir ce disque. On plonge dans les archives de France Musique, de Lina, avec une voix, une grande voix. On commence la semaine, c'est facile, pas d'indice. Qui parle ici? Écoutez bien.
Jean Cocteau a toujours dit qu'il avait eu deux maîtres, Satie et Radiguet. C'est-à-dire que Satie, avec sa musique, ça a été la même chose pour lui que la révélation qu'il avait eue avec Stravinsky. Car Satie faisait une musique d'une netteté, d'une précision incroyable, et Jean Cocteau a voulu que ses poèmes et ce qu'il écrivait aient cette condensation et cette netteté.
Qui est-ce qui est ce grand comédien qui évoque un grand artiste qu'il a bien connu? Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque Talisman de Carole Beffa. La bonne réponse, je vous la donnerai dans une heure à la fin de Musique Matin. Et vendredi dernier, notre voix mystère, c'était celle d'un autre grand comédien, celle de Michel Bouquet.
Une version un peu trip-hop, je crois on peut dire, Tchaïkovski, la danse de la fée dragée, Casse-toisette, très revisité par le compositeur et producteur américain Sean Lee avec son Ping Pong Orchestra, un album paru il y a une dizaine d'années qui s'appelle Hooked Up Classics. Tchaïkovski, en version originale, est à l'honneur cette semaine avec les orchestres de Radio France, avec demain soir et mercredi soir, Jean-François Zigel qui plonge dans Roméo et Juliette. Il dissèque cette ouverture fantasy du compositeur russe. Ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et ça se passe à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Et puis à partir de mercredi, toujours à Paris, mais cette fois au Théâtre des Champs-Élysées, c'est l'Orchestre National de France qui sera dans la fosse sous la baguette de Karina Kanellakis pour une nouvelle production d'Eugène Onéguin, mise en scène par Stéphane Brunswick, enregistrée bien sûr par France Musique et diffusée en cadeau de Noël le 25 décembre. A tout de suite.
week-end du 12 au 14 novembre, France Musique s'installe à Marseille à l'occasion du bicentenaire du Conservatoire de musique Pierre Barbizet. France Musique vous invite à 3 jours d'émission et 2 grandes soirées jazz et classiques en direct et en public du Palais Carly. Venez fêter l'événement, applaudir élèves et professeurs du Conservatoire et de nombreux artistes. Entrée libre. Toutes les infos sur francemusique.fr.
En partenariat avec la Provence.
Les études montrent que la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? 6 mois après votre dernière injection, si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Vous êtes aussi concerné si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen ? Vous pouvez faire votre dose de rappel dès 4 semaines après votre injection. Enfin, si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire votre rappel à partir de 3 mois après votre dernière injection sur avis médical. N'attendez pas. Faites votre dose de rappel chez un professionnel de santé près de chez vous ou prenez rendez-vous sur www.santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Lundi 8 novembre 2021, le temps, ce sera pluvieux, nuageux sur une large partie du pays, mais sec avec la pluie sur la Corse, un retour du soleil sur le pourtour de la Méditerranée et un mistral et une tramontane qui vont souffler très fort jusqu'à 100 km par heure en rafale. Les températures ce matin, 1 à 7 degrés dans les terres, un risque de petite gelée sur la Bretagne et les pays de la Loire. Les maximales cet après-midi, 10 à 14 degrés sur la moitié ouest, 7 à 12 sur l'est, 13 à 17 près de la Méditerranée. Vous écoutez France Musique, il est 8h. Un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Des promesses, toujours des promesses, ironiseront les plus pessimistes. En Écosse, la COP26 se résume pourtant bien à cela depuis maintenant une semaine. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours avant la clôture de ce rendez-vous international présenté comme celui de la dernière chance pour lutter contre le réchauffement climatique et faire appliquer à minima l'accord de Paris de 2015. Notre envoyée spéciale Véronique Robert-Roth nous appelle de Glasgow.
À chaque jour, sa promesse sur le charbon, la déforestation, sur le méthane ou certains aspects financiers. Comme les 20 pays, la France n'en fait pas partie, et 5 banques publiques qui ont promis de mettre fin à leur financement public à l'étranger dans les énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole dès 2022. Mercredi prochain, lors d'une journée consacrée au transport, c'est une autre coalition d'États qui pourrait annoncer la fin des ventes des véhicules thermiques en 2035. Une frénésie de promesses dont on ne peut pas dire dans quelle mesure elles seront tenues, un peu, beaucoup, l'avenir le dira. Pas vraiment de quoi adoucir les crispations qui devraient s'exprimer cette semaine sur les règles d'application de l'accord de Paris, toujours pas finalisé, 6 ans après son adoption, quelle coopération internationale autour d'un marché carbone, quelle solidarité financière les pays riches vont-ils exprimer en faveur des plus pauvres qui doivent s'adapter au réchauffement climatique ou attendent d'être dédommagés pour ce qu'ils ont définitivement perdu. L'engagement des pays riches de verser 100 milliards de dollars par an pourrait être repoussé à 2023. Cette seconde semaine de COP ne sera probablement pas paisible, a reconnu Alok Sharma, le président britannique de la conférence, pour qui les quelques progrès engrangés ne sont pas suffisants.
Une COP 26 à laquelle n'a pas participé physiquement le président chinois comme son homologue russe. D'ailleurs, il s'est contenté d'une présence virtuelle. Xi Jinping qui verra d'ici la fin de cette semaine son pouvoir renforcé plus que jamais à la faveur d'un nouveau plénum du comité central du Parti communiste. Cette institution réunit les 400 plus hauts responsables du parti au pouvoir en attend l'adoption d'une résolution dite historique. Elle est censée conduire le pays vers une nouvelle ère de prospérité commune sous la houlette évidemment de l'actuel chef de l'État. Au Népal, des guides de haute montagne viennent de découvrir dans la région de l'Everest 3 corps pour l'instant non identifiés. Un hélicoptère de sauvetage a été envoyé sur place pour les récupérer. Il pourrait s'agir des 3 jeunes alpinistes français depuis le 26 octobre dernier. Ils sont portés disparus dans cette zone après une avalanche. Les États-Unis rouvrent aujourd'hui leurs frontières après 20 mois de restrictions pour cause d'épidémie de Covid-19. Les compagnies aériennes ont multiplié les vols pour répondre à la demande. Ne pourront entrer sur le sol américain que les personnes totalement vaccinées qui présentent un test PCR négatif.
France Musique, 8h03, alors que l'obligation de porter le masque fait son retour dans les écoles primaires de 39 départements, l'exécutif s'apprête à faire le point sur la crise sanitaire dans notre pays. Les cas de contamination repartent à la hausse d'après les derniers chiffres officiels, Olivier Denré.
Et oui, d'où ce retour demain soir, pardon, d'un rendez-vous politique qu'on avait un peu oublié ces derniers mois. Une intervention très officielle, télévisée, du chef de l'État depuis son bureau de l'Élysée. Emmanuel Macron prendra la parole à 20h pour évoquer une situation qui se dégrade. Rosalie Lafarge.
Rien n'est encore très alarmant, rassure le pouvoir, mais la tendance n'est pas bonne, concède le porte-parole du gouvernement. Et les motifs d'inquiétude pour l'avenir sont déjà là. L'hiver, les fêtes de fin d'année, les éventuels nouveaux variants et la faiblesse pour l'instant du nombre de troisième doses administrées, liste un député de la majorité. Cette troisième dose pour les personnes les plus fragiles, tous les ministres l'encouragent ces derniers jours. Convaincre plutôt que contraindre, c'est encore le mot d'ordre aujourd'hui. Mais jusqu'à quand ? Certaines voix au sein des troupes présidentielles poussent pour aller plus loin et pourquoi pas jusqu'à conditionner la validité du pass sanitaire à cette troisième injection. Sans troisième dose, vous redevenez vulnérable. Que le pass soit valable si les effets du vaccin le sont encore, c'est une question de cohérence, plaide une marcheuse influente. Sauf qu'une telle décision, l'Élysée le sait, va très mal passer auprès d'une partie de la population, déjà échaudée par le pass sanitaire en tant que tel, mais aussi maintenant par la possibilité donnée au gouvernement d'y recourir jusqu'à l'été prochain. Et le risque, souligne Lucide, un proche du chef de l'État, c'est de raviver une contestation dont on se passerait bien en Macronie à 5 mois de la présidentielle.
Et pour tenter de rassurer les professionnels du monde de la montagne qui, l'année dernière, n'ont globalement pas travaillé pendant l'hiver, le gouvernement a annoncé ces derniers jours la mise en place d'un protocole sanitaire particulier pour les stations de ski, avec notamment le port du masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques et dans les télécabines. Enfin, on connaîtra dans la journée les gestes et le calendrier des évêques de France, un mois après la remise du rapport Sauvé sur les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Les 120 prélats réunis à Lourdes doivent adopter une série de mesures lors d'un vote à huis clos. Vendredi dernier, les évêques ont officiellement reconnu la responsabilité de l'Église dans les crimes sexuels commis par des prêtres et des religieux. 8h06 sur France Musique, juste après votre billet d'actu, Jean-Baptiste Urbain. Le reportage à 8h10 de Clément Buzalta. Retour ce matin avec lui sur la première édition d'un festival entièrement dédié à l'œuvre d'un compositeur. Il s'agit d'Henri Dutilleux.
Et ça se passe dans l'Indre-et-Loire. Rendez-vous demain dès 7h, Olivier Denré, pour de nouveaux journaux. Très bonne journée.
À demain, bonne journée.
Musique Matin, deuxième heure. Il vient d'avoir 40 ans, dont 20, à graver des disques pour sa maison Warner. Gauthier Capuçon célèbre ses deux anniversaires avec un triple album. Il mêle un nouvel enregistrement, son premier, seul au violoncelle, et une compilation de ses deux décennies de carrière. Alors, comment le plus célèbre des violoncellistes français aborde-t-il cette nouvelle décennie de la maturité? Et puis, entre son rôle d'ambassadeur de l'association Orchestre à l'école, son rôle de prof à la Fondation Vuitton et son rôle d'animateur à la télé et à la radio, qu'est-ce qui fait vibrer le Quadra, Gauthier Capuçon, il sera notre invité à 8h30. Et puis c'est une série télé à succès imaginée par le créateur de Lost dans The Leftovers. Le deuil est omniprésent. Une série dont Max Richter signe la bande originale. Max Dezong, lui, analyse cette musique du compositeur allemand. Ce sera dans Maxi Classique. Rendez-vous à 8h20.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Elle dit d'elle qu'elle a une vieille voix de crapaud, mais qu'elle arrive à montrer ce qu'elle veut au chanteur. Joli portrait, jolie rencontre ce matin dans Libération d'Emmanuel Haïm. La chef fête les 20 ans de son concert d'Astrée. Une chef qui, après avoir longtemps dirigé à la main, comme font traditionnellement les ensembles baroques, s'est mise tout récemment à la baguette. Ça dépend des jours, explique-t-elle. En fait, à cause d'une blessure au tendon il y a quelques années, elle utilise désormais cet accessoire pour être vue de loin. Elle fête les 20 ans de son concert d'Astrée. Grand concert avec beaucoup d'invités. Ce sera vendredi à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Et parmi les invités, sa grande amie Nathalie Dessay. Handel, un air du triomphe du temps et de la désillusion. C'était Nathalie Dessay et le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. Concert anniversaire vendredi à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. France Musique, il est 8h12.
Musique Matin, le reportage.
Et direction ce matin l'Indre-et-Loire à Cannes-Saint-Martin précisément. C'est là qu'une association perpétue la mémoire d'Henri Dutilleux, le compositeur mort en 2013. Ces mélomanes passionnés par l'œuvre de Dutilleux mais aussi par l'homme ont réinvesti la dernière demeure du musicien et de son épouse Geneviève Joie. Une résidence d'artiste va bientôt voir le jour. En attendant, le premier festival musical entièrement dédié à Dutilleux a eu lieu le dernier week-end d'octobre. Clément Buzalka y était pour France Musique.
À la limite entre l'Anjou et la Touraine, où la Vienne rejoint la Loire, une maison de tuffeau trône sur la rive, derrière un jardin de rosiers. Cette maison de Cannes-Saint-Martin a été acquise en 1981 par Henri Dutilleux et Geneviève Joie. Pendant près de 30 ans, le couple s'y ressource, mais surtout il compose, joue, enrichit sa culture musicale. Anne Chevalier, la présidente de l'association Henri Dutilleux Geneviève Joie, nous fait la visite de ce lieu si paisible.
C'est un lieu de détente et de composition pour le maître qui a son bureau-chambre, un lieu presque monacal où il se retire pour créer, tournant le dos à cette confluence parce que le paysage le distrayait beaucoup trop dans ses compositions.
Des salles de travail et de séjour, ici les lieux du maître et de son épouse ont été sanctuarisés. Après des mois de travaux et l'aménagement d'une bibliothèque musicale et d'un studio, la maison se refait une jeunesse. Cet espace de création et de passion ne s'est pas éteint avec la mort de Dutilleux en 2013. Elle a été fin octobre l'épicentre du premier festival musical dédié aux compositeurs et des artistes vont bientôt établir résidence dans ces lieux. Jean-Loup Graton, le directeur artistique du festival.
Il ne voulait surtout pas, lorsqu'il a légué à la commune de Cannes, que ça devienne un musée, mais que ça reste un lieu vivant, de création et ouvert aux jeunes créateurs. C'était son souhait et donc ça va être le cas. Dès la fin de l'année, nous allons recevoir un premier résident, Dimitri Batalov, qui est un des lauréats du concours d'Orléans de piano, avec lequel nous sommes en partenariat.
Des jeunes artistes, Henri Dutilleux en a accompagné toute sa vie. Il a été par exemple le mentor de Sonia Vider-Atherton, l'a accompagné notamment pour son interprétation de ses trois strophes au concours Rostropovitch 1986 que la violoncelliste a remporté.
J'ai demandé à Henri Dutilleux si je pouvais venir lui jouer. Je suis donc allée chez lui avec mon violoncelle. Et là, il y a eu ce moment que j'oublierai jamais où je lui ai joué et... Il a fait des commentaires et puis on a parlé de l'œuvre et après je peux dire qu'on s'est vu écrit assez régulièrement.
Pour le festival, Sonia Vider-Atherton est revenue dans cette maison de Dutilleux pour perpétuer l'œuvre de l'artiste sous le regard des mélomanes de la région.
Qu'est-ce qu'il y avait de plus beau pour dire ça y est, elle existe, ça y est, elle vibre, ça y est, elle est belle, ça y est, elle est visitable, ça y est, elle va accueillir des compositeurs, des musiciens, c'est de jouer du Henri Dutilleux.
Avec cette résidence d'artiste, l'œuvre de Dutilleux va continuer à résonner dans le Chinonnais. Le festival devrait revenir au printemps pour une nouvelle édition, au cœur de cette nature qu'affectionnait le maître et dont on retrouve les couleurs dans la grande majorité des pièces, de ses œuvres pour soliste à ses compositions pour orchestre.
Reportage signé Clément Buzalka pour France Musique à Cannes-Saint-Martin dans l'Indre et Loire. C'est une très grande dame du piano, Elisabeth Léonskaya, ouvre ce soir le festival L'Esprit du Piano à Bordeaux. La musicienne née en Russie donne à l'auditorium de l'Opéra un récital. Elle a choisi Mozart, Schubert et Brahms. Ce matin, nous on a choisi l'un de ses derniers disques, il est consacré à Robert Schumann.
Thank you.
La polonaise extraite et Papillon de Robert Schumann sous les doigts de Elisabeth Leonskaya, la pianiste qui est ce soir en concert à l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux. 8h20 dans quelques instants, Max de Zolm, mais avant, une musique qui va définitivement vous réveiller. Thank you. Voilà, maintenant vous êtes réveillé. Alberto Ginastera, la danse finale d'Estencia. C'était l'orchestre symphonique Simon Bolivar, dirigé par Gustavo Dudamel. Événement, le chef vénézuélien, nouveau directeur musical de l'orchestre de l'Opéra de Paris, sera ce soir à la tête de son orchestre lyrique. Un programme symphonique à la Philharmonie de Paris. Il a choisi Mozart, Ravel et Berlioz. Il reste quelques places, les plus chères. Mais sur France Musique, c'est gratuit. Le concert est diffusé ce soir en direct à 20h, présenté qui plus est par Clément Rochefort. On verra si le maestro Dudamel fait crier et chanter comme ces musiciens vénézuéliens, les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Il est 8h24, à l'heure de Maxi Classique avec Max Ozone. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
La Toussaint, le jour des morts, le début du mois de novembre, est une période où l'on se souvient de nos proches disparus.
Et c'est aussi la période parfaite pour voir ou revoir une série où le deuil est omniprésent, The Leftovers, ceux qui restent. The Leftovers repose sur un argument qu'on peut résumer en une phrase. Le 14 octobre 2011, 2% de la population mondiale a tout simplement disparu. Le bébé qui criait à l'arrière d'une voiture, le fœtus que l'on distinguait lors d'une échographie, le livreur de journal, la professeure de yoga, tous ces gens se sont évaporés en quelques secondes. Reviendront-ils un jour? Pourquoi ont-ils disparu? Et surtout, comment faire pour se reconstruire, pour continuer à vivre quand un événement aussi absurde et inexplicable s'abat sur vous? Telles sont les questions posées par The Leftovers. La musique participe pour beaucoup à la réussite de cette série. Il y a d'abord la bande originale marquante de Max Richter, le compositeur allemand qui signe la musique du générique et qui, comme à son habitude, fait également dans le recyclage de ses propres musiques. Ainsi, à côté des partitions écrites spécifiquement pour The Leftovers, Max Richter réutilise une petite pièce qu'il avait composée pour le film Valse avec Bachir d'Harry Folman. Elle se nomme Andante Reflection. Les mélomanes auront certainement reconnu dans cette ritournelle mélancolique l'Andantino de la 20e sonate pour piano de Franz Schubert. Franz Schubert qui a été retranscrit par Max Richter et que l'on retrouve également dans The Leftovers à travers le Sanctus de la Deutsche Messe, sa messe allemande. La musique sacrée occupe une place de choix dans The Leftovers. Cantiques, hymnes, chœurs et psalmodies accompagnent en effet la peine des personnages qui sont restés sur Terre. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans la croyance et vivent la disparition de leurs proches comme une punition divine, une mise à l'épreuve. Le chœur Vapensiero de l'opéra Nabucco de Verdi peut s'entendre comme l'hymne de The Leftovers. Dans l'opéra de Verdi, des Hébreux en exil se souviennent avec douleur de leur patrie et de leur liberté perdue. Un contrepoint à la situation des personnages de la série. Certains sont partis, d'autres restent, tiraillés entre le souvenir, la souffrance et l'espoir. Et par conséquent, ce chant de l'exil est aussi le leur. Thank you.
Le cœur des esclaves de Nabucco de Verdi, comme emblème de la série de Leftovers, maxi classique, la chronique de Max Zolm, à retrouver sur francemusique.fr et à podcaster sur l'application Radio France. D'ailleurs, cette musique, elle avait été enregistrée par notre invité dans quelques instants, Gauthier Capuçon, sur son précédent album Émotion, paru l'an dernier. Quelle émotion de vous retrouver, Émilie Munera, bonjour.
Bonjour, je vous ai déjà manqué.
Ben beaucoup.
Ça fait bien plaisir.
Bon anniversaire en retard.
Ben c'est très gentil, vous m'avez même dit le jour même, donc vous êtes parfait. Et ça a été très chaud de choisir le coup de cœur aujourd'hui, parce qu'il y a deux très beaux disques dans cette émission, pas que deux, mais en tout cas deux dont on va parler. Le Schubert du Quatuor Hermès, qui va ouvrir cette émission, et puis Isata Kanemason, vous avez peut-être entendu son disque de piano autour de la musique américaine avec beaucoup de pages rares, et en fait de belles découvertes, et c'est donc Isata Kanemason qui a eu le coup de cœur disque du jour dans Piste.
Et ben rendez-vous tout à l'heure avec un petit parfum d'été, donc à nouveau avec ce disque.
Absolument.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
40 ans, l'âge de la maturité, celui d'un premier bilan depuis septembre, Gauthier Capuçon et Quadra, bienvenue au club, bonjour.
Bonjour.
Un cap que le violoncelliste franchit avec un triple album paru chez Erato Warner Classics, un premier disque pour violoncelle seul et deux disques qui rassemblent des souvenirs de 20 ans d'enregistrement. Souvenir, c'est justement le titre que vous avez choisi, Gauthier Capuçon. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Ce cap des 40 ans, il a été douloureux, comment vous l'avez passé?
Oh, comme tranquillement tout, comme tous les autres. Ouais, c'est... Non, je trouve que moi, plus les années passent et plus je trouve qu'elles sont belles. Voilà, on sait de plus en plus ce qu'on veut faire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Non, j'aime bien cet âge. Pour l'instant, ça me va bien.
Au-delà du chiffre symbolique, vous avez le sentiment d'avoir atteint une forme de maturité. Ça fait quelques années que vous enseignez, que vous œuvrez pour la transmission. Vous évoquez aussi les questions de défense de l'environnement. Il y a quelque chose de plus dense?
Oui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, de réaliser, mais vous savez, j'ai toujours, en fait, quand je monte sur scène, j'ai toujours l'impression d'être presque à mes premiers concerts. Et c'est en même temps l'exigence que j'ai avec moi-même, c'est la découverte perpétuelle sur scène, même des œuvres que j'ai jouées des centaines de fois, et voilà, c'est comme si c'était toujours le regard d'un petit garçon qui est émerveillé de ses premiers concerts.
C'est ce que dit d'ailleurs Augustin Lefebvre dans la pochette du disque, votre premier professeur, il vous a connu à 5 ans et dit tu es toujours habité par cette joie magique. Vous faites attention à ne pas la perdre, où il n'y a pas de risque.
Non, je pense que c'est très important de la garder, de la cultiver. J'ai la chance d'avoir ça en moi. Et ça me fait sourire que vous parliez d'Augustin. C'est vrai que pour cet album, j'ai souhaité donner la parole à mes professeurs parce que ils ont joué un rôle essentiel dans ma vie de musicien, dans ma vie tout court. Je leur dois tellement, je ne serais pas là aujourd'hui sans eux. Et je trouve ça beau de se souvenir d'eux. Je suis en contact avec tous et voilà, c'est très touchant de lire ces mots. Et quand je les ai contactés, je leur ai demandé d'écrire quelques lignes, ce qu'ils voulaient sur voilà de souvenir de ces moments passés ensemble. Et Augustin qui parle de la joie de vivre, je lui dois ça aussi beaucoup parce que c'était un professeur extraordinaire. Et qui avait qui était très pédagogue, qui aimait les enfants, qui savait surtout transmettre ce bonheur vraiment de partager la musique, de jouer, d'avoir du fun.
Et le deuxième prof, Gilles Goubin, qui dit ta période ado, t'as révélé Espiègle avec moi. Qu'est-ce que ça cache? Vous avez été un ado rebelle, on découvre ça?
Non, j'ai jamais été rebelle. Non, mais parce que, alors, Gilles Goubin, il était parfois un peu agacé parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, je faisais tout d'oreille. Alors, il me disait, non, mais regarde la partition, lis les notes. Et en fait, moi, j'entendais un truc, je jouais, je faisais un peu comme les choses me venaient, finalement.
40 ans, l'heure d'un premier bilan, en tout cas le moment d'enregistrer enfin ceci. Thank you. Sébastien Bach, le prélude de la première suite pour violoncelle seule, c'est sur le nouvel album, triple album de Gauthier Capuçon, premier album pour violoncelle seule. Gauthier Capuçon, vous êtes dit, qu'est-ce que vous êtes dit pour enregistrer maintenant cette première suite? Enfin, c'est temps.
C'est une bonne question. Moi, je pars vraiment de ces albums que je fais, ça part toujours d'un désir de l'instant, ce qu'on a envie de partager. C'est une photographie d'un moment donné de la vie. 40 ans, voilà, on voulait célébrer. Alors, je pensais faire un album avec plein de copains. Et puis, c'est vrai que je me suis mis à repenser à ces 20 dernières années sur scène. Et puis, j'ai repensé à ce programme Violoncelle Seule que j'ai beaucoup donné entre mes 18 et 25 ans. Et un programme auquel je ne suis pas revenu depuis, et chaque année, parce que c'est vrai que violoncelle seule, pour nous, c'est quelque chose qu'on fait moins régulièrement. Les pianistes ont l'habitude d'être seuls sur scène, c'est quand même un exercice très différent. Et puis chaque année, je me disais, allez, l'année prochaine ou dans 2 ans, je reviens à ce programme. Et puis les années passées, là, je me suis dit, 40 ans, voilà, c'est en même temps, c'était un réel challenge, mais j'avais envie de le faire. Et puis c'est pour ça qu'on a aussi fait ces deux disques de ces coups de cœur discographiques un peu des 20 dernières années. Oui, parce que en fait, voilà, je suis parti de ce premier disque violoncelle seule, et puis je suis allé replonger vraiment dans mes souvenirs. Donc souvenirs avec mes premiers professeurs, souvenirs de ces 20 dernières années avec Warner Classics. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Souvenirs.
C'est audacieux de faire un disque de violoncelle seule. Vous avez un public très grand public, très populaire. Comment vous êtes dit, comment il va réagir face à cette musique de Kodály, de Dutilleux ou pas?
Non, parce que je pense que quand un public fait confiance à un artiste, il faut justement savoir avoir un spectre large. Je pense que la première règle, de toute façon, c'est d'interpréter, de jouer des œuvres que l'on aime. Donc quand je joue Édith Piaf, c'est une œuvre qui me procure de l'émotion, que j'ai envie de partager tout autant que les 3 strophes d'Henri Dutilleux. C'est mon histoire, c'est... Henri Dutilleux, j'ai eu l'immense privilège de travailler avec lui les dernières années de sa vie. Et voilà, c'était pour moi important aussi de... Chaque œuvre est connectée à des moments de vie et des souvenirs forts. Et donc voilà, d'où le titre « Souvenirs ».
Souvenir avec on vous voit à cheval, on vous voit avec une moto. Il y a aussi un désir de replonger dans sa jeunesse à laquelle vous êtes fidèle.
Oui, bah vous parliez de la joie tout à l'heure. Pour moi, c'est important aussi de l'évoquer, de partager ces souvenirs. Un album, on raconte une histoire. On raconte une histoire, évidemment, d'un point de vue sonore, puisque je suis violoncelliste. Mais j'avais envie de la raconter aussi avec ces souvenirs visuels, des souvenirs que peut-être le public ne connaît pas. Voilà, c'est ma vieille moto que j'ai achetée dans les années 20, une Terreau des années 50, dans les années 20, pardon, quand j'avais 20 ans. Dans les années 20, j'étais pas né. Enfin, celle de 1900, en tout cas. Le cheval, j'ai été cavalier. Voilà, la relation avec le cheval est quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'avais envie de m'amuser en Savoie, là où j'ai grandi.
Des bons, des moins bons souvenirs? Est-ce qu'il y a des choses? Il y a un côté album photo quand on voit tous ces disques que vous parcourez, les partenaires aussi de musique.
C'est un album photo sonore et visuel avec les magnifiques photos de James Bort et ses coups de cœur discographiques des 20 dernières années aussi. Vous savez, quand on fait un disque, on le vit pendant, un petit peu après, l'année d'après, lorsque le disque sort, et que là j'en parle à votre micro ce matin. Et puis c'est vrai que voilà, les projets continuent et on passe à autre chose d'une certaine manière. Et donc c'était émouvant aussi pour moi de me replonger, de repenser à ces 20 dernières années. J'ai retrouvé des vidéos aussi, je suis allé chercher un petit peu dans mes archives. Par exemple, le disque des concertos de Haydn avec le Mahler Chamber Orchestra et Daniel Harding. Je crois que c'était en 2001 ou 2002, j'ai retrouvé des vidéos, c'était il y a 20 ans, j'étais un gamin, et c'est vrai que de revoir ces vidéos, on se replonge, évidemment, il y a plein de souvenirs qui reviennent, et donc voilà, je partage ces vidéos de temps en temps, parce que je trouve ça sympa aussi de voir ça.
Vous parlez des vidéos, les photos, les disques, est-ce qu'ils vieillissent bien comme les photos qui jaunissent quand on les réécoute 10, 15, 20 ans après?
Ben, c'est pareil, c'est un instant, c'est la gravure d'un instant précis. Oui, on évolue. Moi, je regarde ça avec tendresse parce que je suis d'une certaine manière un éternel pas insatisfait parce que ça c'est péjoratif, mais je veux toujours faire mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire mieux? Ça veut finalement pas dire grand-chose. On essaye toujours de donner le meilleur de soi, mais au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on avance dans la vie, on a envie de partager des choses différentes, parfois des choses plus profondes, des choses plus intenses, plus personnelles, parce qu'on se sent de le faire. Et c'est vrai que cette période de Covid aussi nous a fait découvrir un champ des émotions, je pense, qui va beaucoup plus en profondeur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec mon violoncelle, je vais plus loin dans ces sentiments, qu'ils soient dans ces émotions, qu'elles soient celles de la joie ou de la tristesse. On va plus profond. Et oui, c'est quelque chose de pour moi d'essentiel. Mais quand je réécoute ces vieux enregistrements, alors je reconnais, il y a toujours l'ADN d'un artiste, d'un musicien. On reconnaît la voix. Après, elle évolue, elle se charpente. C'est à vous de me le dire. Moi, c'est un peu difficile d'être mon propre juge.
Alors là, on va pas énormément remonter le temps. On est en 2015 et vous avez choisi cet enregistrement sur ce triple album Souvenir. Extrait du concerto pour violoncelle de Robert Schumann, Gauthier Capuçon, l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Bernard Haitink, qui nous a quitté le mois dernier. Beaucoup de souvenirs liés à cet enregistrement.
C'était un homme extraordinaire qui nous a quitté il y a peu de temps, un immense musicien qui m'a fait confiance. J'ai joué avec lui, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. J'étais dans l'orchestre des jeunes de la communauté européenne. Non, j'avais pas 16 ans d'ailleurs, j'avais 15 ans et j'avais pas été autorisé à faire la tournée parce que j'étais mineur. Donc j'avais fait toute la période de répétition avec lui. Et puis un jour, il m'a demandé de jouer le concerto de Schumann avec lui. Donc quel immense honneur, et on l'a joué beaucoup ensemble et on l'a enregistré. C'était au Concertgebouw d'Amsterdam et c'était le soir des attentats à Paris. Et on est sorti de scène, puisque c'est un enregistrement live. Je me souviens très bien, je suis sorti de scène, je suis monté dans la cabine d'enregistrement, et là j'ai allumé le téléphone et j'ai vu l'horreur qui s'était passée à Paris. Donc ce disque est en même temps un souvenir extraordinaire avec Bernard Haitink, et en même temps marqué par ces terribles attentats.
La joie et la tristesse sur ce disque, il y a aussi de la création, on va en parler dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on parle de la transmission. Vous avez donné la parole à plusieurs de vos professeurs, Augustin Lefebvre, Gilles Goubin, Annie Zakine-Cochet et Philippe Müller. Vous, à quel moment le fait de passer, de transmettre, d'enseigner est devenu si essentiel pour vous?
Ça vient en fait progressivement. Comme la relation avec vos parents, en fait, vous comprenez pas tout de suite pourquoi on vous dit telle ou telle chose, pourquoi on vous interdit une autre. Et puis vous avez des enfants, et puis c'est là que si tous les souvenirs remontent et que vous comprenez certaines choses, les choses s'éclairent d'une certaine manière. Avec l'enseignement, c'est la même chose. Et simplement, j'ai ressenti ce désir de plus en plus fort. J'ai créé la classe d'excellence de violoncelle à la Fondation Louis Vuitton, ça fait 8 ans, en 2014. Et puis voilà, j'ai vraiment ressenti ce besoin de m'investir de plus en plus. Ensuite, auprès d'Orchestre à l'école, dont je suis l'ambassadeur, qui est une association extraordinaire qui travaille au plus près des enfants, vraiment des petits, dans le milieu scolaire, et qui leur donne la chance, le privilège de pouvoir apprendre d'un instrument pendant un cycle de 3 années à l'école. C'est essentiel, c'est un projet musical bien sûr, mais bien au-delà de ça, c'est un projet d'éducation, un projet de société. Ces enfants, ils sont 42 000 aujourd'hui en France, hein, donc c'est un chiffre qui est vraiment conséquent, 120 000 depuis l'origine de la création de l'association. Mais c'est encore trop peu. On voudrait que chaque enfant puisse avoir ce privilège d'apprendre la musique. Moi, j'ai vécu des moments très forts avec eux, notamment pendant la tournée Un été en France. Ils étaient là, première édition. Ils étaient là l'année dernière. Ils seront là pour la prochaine édition. Et puis, on se retrouvera. On aura une petite surprise pour vous le 10 janvier prochain à Paris avec les enfants de l'école du domaine du possible d'Arles et de Malakoff, avec également Daniel Auteuil. Ça sera à Paris. On vous confirmera le lieu très vite, le 10 janvier.
Ils apprennent la musique, ces enfants d'orchestre à l'école, ils apprennent le collectif, le partage. Et vous, qu'est-ce que vous apprenez à leur côté, Gauthier Capuçon?
Ah mais moi j'apprends tous les jours, j'apprends... vous savez, on parlait des émotions tout à l'heure, mais ce que eux ressentent, et la manière dont si jeunes... Moi je suis bluffé chaque fois de voir à quel point ils sont capables, du haut de leur, je sais pas, 7, 8 ans, 9 ans, de raconter avec des mots. C'est dur déjà en tant qu'adulte parfois de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Quand un gamin vient me voir et me dit je dis c'est quoi pour toi la musique, il dit moi tu vois quand je prends mon instrument j'oublie tous mes problèmes. Et quand vous apprenez après que cet enfant est dans une situation très difficile, vous prenez le poids, vous mesurez vraiment le poids de ses mots. Et quand il vous dit qu'il oublie tous ses problèmes, c'est pas les problèmes qu'on a, vous et moi. Donc ça, c'est le pouvoir aussi de la musique. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui vient de sortir aux éditions Gallimard. 100 001 histoires sur ces enfants d'orchestre à l'école. Je vous le recommande pour comprendre vraiment ce que fait cette association et ce que ressentent ces enfants.
Ils participeront donc à la 3e édition de ce festival itinérant, Un été en France. Les premières parties seront données l'été prochain, encore assurées par de jeunes artistes, oui, de 18 à 25 ans. justement, vous venez de lancer l'appel à candidature. Il y a des jeunes musiciens qui nous écoutent. C'est fait pour qui? Qui recherchez-vous?
C'est fait pour les jeunes entre 18 et 25 ans. C'est cette période qui est essentielle dans la vie d'un musicien qui se lance sur cette voie. C'est une période compliqué où on sort d'un grand conservatoire, on a son prix, on pense que voilà la vie s'offre à nous, puis on s'aperçoit qu'en fait c'est très difficile de trouver des concerts, des engagements, de rencontrer les acteurs du milieu culturel et musical, et encore plus dans cette période Covid. Il faut vraiment que chaque musicien, chaque organisateur de concert, chaque orchestre, vraiment chacun à sa manière, soutiennent ces jeunes. C'est très difficile quand on commence. Et il y a toute une génération là pour qui c'est une mission quasi impossible, et il faut les soutenir d'une manière ou d'une autre. Ces premières parties, j'y crois depuis le début, j'ai vu à quel point c'était merveilleux, le public est là, le public suit, les soutient, et donc il faut les encourager vraiment, il faut les aider à remettre le pied à l'étrier, à les mettre dans la lumière. Et donc cette année encore, ce sera des jeunes d'entre 18 et 25 ans qui feront toutes ces premières parties.
Et l'appel à candidature est lancé. Retour à Souvenir et retour à l'album solo. Capuçon, qu'est-ce qu'on entend ici?
C'est la pièce qui s'appelle Ombre Cello de Javier Martinez Campos. C'est un jeune violoncelliste et compositeur, un de mes anciens élèves, donc qui lui faisait partie de la première promotion de la classe d'excellence de violoncelle. Et à l'époque, donc on fait toujours ce concert pour clôturer la saison, une promotion de la classe d'excellence, et on fait un concert qu'on donne ensemble, tous ensemble, donc à 7 violoncelles, 6 jeunes violoncellistes et moi-même. Et donc je leur dis à tous, choisissez une œuvre que vous allez jouer en solo, et puis nous les autres on vous accompagne. Je dis à Ravir, et toi qu'est-ce que tu veux faire? Il me regarde et me dit, moi j'aimerais composer une œuvre pour cette violoncelle. Et j'ai été tellement surpris, parce que je ne savais absolument pas qu'il était compositeur. Donc sans même savoir ce qu'il composait, je lui dis ok. Il a composé une œuvre qui s'appelle Fantaisie pour la classe d'excellence, qui est une œuvre géniale. Et donc là, pour cet album solo, j'avais choisi Bach, Dutilleux et Kodály, qui était ce programme que je donnais quand j'avais 20 ans. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré un homme qui, dans la rue, c'était vraiment une rencontre, j'étais à trottinette, il m'interpelle, et il était en train de créer un parfum qui s'appelait Ombre Cello, et il me dit, ah, mais j'aimerais que vous jouiez la musique. Alors je dis, ok, super, mais j'aimerais que cette œuvre soit créée. J'ai pensé tout de suite à Ravir, parce que ce sont les parfums d'Orient, c'est le sable chaud, les épices. Et donc on a demandé à Ravir de composer une œuvre qui s'inspire de ce parfum, et donc moi j'ai interprété. Et donc j'ai été très heureux de pouvoir aussi le soutenir, parce que j'aime sa musique. Je trouve que c'est un jeune qui monte. Il a créé sa première symphonie à l'Orchestre National de Madrid, et donc voilà l'histoire de Ombre Cello qui figure donc sur ce disque.
Javier Martinez Campos, autre création, celle d'un concerto de Danny Elfman, le compositeur notamment des musiques de Tim Burton. Ouais, ce sera à San Francisco, puis en mai ici, alors qu'elle fait l'harmonique de Radio France, dirigée par Mico Franck. Ça, vous avez déjà reçu la partition, c'est fini?
Absolument, on est en train de travailler depuis plusieurs semaines. Moi, j'ai toujours adoré le registre des musiques de films, parce que voilà, je trouve qu'elle donne des émotions différentes. J'aime ses harmonies, j'aime son atmosphère, j'aime aussi le fait que ça soit connecté directement a une histoire. En fait, je reviens toujours à la même chose, c'est l'histoire qu'on raconte. Et on s'est rencontré avec Danny Elfman à Los Angeles, dans son studio, et on a fait connaissance, on a appris à se connaître, on s'est vu plusieurs fois, et donc voilà ce projet qui est né. J'ai vraiment hâte de créer cette œuvre. C'est un artiste extraordinaire. Il chante, il joue de la guitare électrique, il a un groupe de rock, et puis c'est, voilà, vous venez de le dire, c'est lui qui a composé toutes ces musiques des films de Tim Burton, dans un évidemment une atmosphère toute particulière, mais c'est tellement inspiré, ça raconte tellement de choses. Donc j'ai hâte de pouvoir l'interpréter au violoncelle.
Rendez-vous en mai pour la création française du concerto de Danny Elfman avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck. D'ici là, Gauthier Capuçon, le 23 novembre, vous serez à la Philharmonie de Paris avec votre ami et la pianiste Yuja Wand. Les premiers
hits
de décembre avec l'Orchestre de Paris dirigé par Esa-Pekka Salonen, ouais, dans le premier concerto pour violoncelle de Shostakovich. On vous retrouve également à la télévision, Prodige, une nouvelle édition, ouais, en décembre, déjà enregistrée.
Oui, déjà enregistrée.
Toujours juré, impartial.
Et vous allez découvrir cette année des jeunes vraiment formidables. Le niveau était élevé, je dois dire, assez homogène dans les différentes catégories. Donc ça va être très, très intéressant. J'ai hâte que vous puissiez voir l'émission.
Gauthier Capuçon, notre invité, ça vous va si on se quitte en famille avec votre frère et votre sœur?
C'est une très bonne idée, et je suis ravi, évidemment, que dans ces souvenirs de ces 20 dernières années, évidemment, il y a plusieurs titres aux côtés de mon frère, parce qu'on a enregistré quand même un certain nombre d'albums, et puis je suis très heureux aussi que ma sœur soit présente, Aude, qui est pianiste, amateur, elle est orthophoniste, mais voilà, on a enregistré cette marche miniature viennoise de Kreisler, et c'était très important pour moi.
Miniature viennoise de Fritz Kreisler avec Gauthier, Aude et Renaud Capuçon. C'est sur le triple album Souvenir. Merci Gauthier Capuçon d'être venu sur
Bonne
France Musique. À très bientôt. Demain, un violoncelliste peut en cacher une autre. Notre invitée sera Anne Gastinel. Eh oui, la technique ce matin, il y avait Stéphane Poitevin et Emmanuel Rose, Marion Guillemet, Marjolaine Portier-Kaltenbach, Pierre Matignon ont préparé cette émission. Yacine Bouzard l'a réalisée. Et la réponse à la voix mystère il y a une heure, c'était la voix de Jean Marais que nous entendions. Bonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste. A priori, pas de violoncelle dans notre émission, mais du violon.
Mais vous voyez, on en fait beaucoup, nous.
Et de la contrebasse.
Et de l'alto.
Voilà, donc comme quoi tout sauf le violoncelle.
Bah écoutez, on a bien réparti les rôles.
Sherban Loupou dans des inédits de Jeanne Isaïe. Au milieu de l'émission, si vous voulez savoir. Ben si vous voulez venir écouter ce moment précisément.
On reste toute la journée.
À demain.
À
demain.
À réécouter sur francemusique.fr.